clé secrète de l'univers. Dominique Demichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Attention, ceux qui nous suivent depuis maintenant 8 semaines savent que nous sommes partis pour un grand voyage. Au cœur d'un autre monde, un monde familier car c'est le nôtre, mais aussi très étrange car nous le connaissons très peu. C'est dans une fantastique balade que nous continuons à vous embarquer maintenant, l'histoire de notre monde du Big Bang jusqu'à nos jours. Ceux qui aiment la musique ou le cinéma ont reconnu notre générique. C'est l'air que Stanley Kubrick a utilisé pour l'ouverture de son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Un scénario de Arthur C. Clarke, un film datant de 1968, une musique de Richard Strauss dénommée Ainsi parlait Zarathoustra. Nous avons 15 minutes ensemble chaque semaine et il ne vous faut, chers auditeurs, ne manquer sous aucun prétexte, aucune équipée pour nous suivre au plus près. À vous de retrouver les épisodes ratés sur le site de radiograndciel.fr. Nous avons 13,8 milliards d'années à parcourir, tâchons donc de prendre un peu notre temps, et aujourd'hui nous en sommes à l'épisode 9. Et nous retrouvons notre infatigable conteur, savant, fondamental à la fois, plein de savoir, mais aussi de rêves et de poésie, Michel Galliana Mingo, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler de la suite du Big Bang. Lorsque nous avons parlé du Big Bang, nous étions un peu dans la métaphysique. Mais maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé après et nous entrons alors dans la physique, je dirais même la physique bien connue maintenant. Alors que se passe-t-il? Dans les trois premières minutes, toute la matière va se créer sous forme de particules. Toute la matière, mais aussi toutes les forces qui animent cette matière. Tout cela prend la forme de particules, particules de matière, particules de force. Oui, les forces elles-mêmes sont aussi des particules. Pour vous donner une idée, dans le monde de tous les jours, autour de vous, tout est fait à partir d'une dizaine de particules seulement.
Oui.
Eh bien, toutes ces particules sont apparues en 3 minutes. Et cette histoire de 3 minutes a été décrite par une personne qui a eu le prix Nobel pour ça, qui s'appelle Stephen Weinberg. On retrouve tout cela dans son livre « Les trois premières minutes de l'univers ». Et moi, je dis que cet homme aurait mérité non pas un prix Nobel de physique, mais un prix Nobel d'histoire. Parce que quel historien pourrait vous dépeindre avec tant de détails et d'exactitude une histoire de 3 minutes qui se situe dans le temps à 13,8 milliards d'années de nous. Eh bien, c'est ce prodige qu'a fait Stephen Weinberg, et j'insiste bien, c'est de la physique, c'est-à-dire que l'expérience que nous avons des particules, dans les accélérateurs de particules par exemple, nous permet de décrire avec certitude tout cela. Et voilà, donc au bout de 3 minutes, toute la matière est faite. Par contre, elle n'a pas du tout l'allure de la matière d'aujourd'hui. À cette époque-là, il s'agit d'une soupe extrêmement chaude, des milliards de degrés, plus chaud que le cœur des étoiles, n'est-ce pas? On est vraiment dans des températures extrêmement chaudes. Toutefois, on arrive à les reproduire dans les accélérateurs de particules, ces températures, ce qui fait qu'on sait de quoi on parle. Et il s'agit donc d'un gaz. Alors, ce gaz, on l'appelle un plasma parce que les particules sont chargées, comme il y a des particules chargées négativement, d'autres positivement. Tout ceci s'appelle un plasma, mais bon, on pourrait dire un gaz, hein, c'est un peu la même chose. Voilà donc ce qu'a produit le Big Bang en 3 minutes, c'est un gaz.
Et alors, j'ai bien envie de revenir sur cette espèce. Sur ce que vous dites du côté du temps, hein. On a vu au début qu'il y avait quelque chose qui se passait dans une toute petite fraction de seconde, puis ensuite un tout petit peu plus qu'une seconde, puis une seconde, puis une minute. En effet, c'est quelque chose de très court. Pour la température, puisque Michel vous a reparlé, je crois qu'au tout début, on considère, même si évidemment on est sûr de rien, que la température, elle est de 10 avec 32 zéros, puis un petit peu plus tard, 10 puis avec 27 zéros. Et là, je crois qu'on en est à 10 avec 13 zéros derrière. Hein. Au bout de 3 minutes, il y a quelque chose comme ça. Donc, on est encore à 100 milliards de degrés, quoi. C'est ça, à peu près. Hein.
C'est ça. Mais on arrive aux températures qu'il y a au centre des étoiles.
D'accord.
Et que va devenir ce gaz? Eh bien, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est refroidir.
Oui.
Et son refroidissement va être relativement long, c'est-à-dire que pendant 380 000 ans, disons qu'il ne va rien se passer. C'est-à-dire que pendant 380 000 ans, l'univers reste cette soupe informe de particules très chaudes. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là, 380 000 ans plus tard? Eh bien, je vous disais que dans ce plasma, il y avait des charges négatives, comme les électrons, et d'autres positives, comme les protons. Et vous savez que la matière est faite de protons et d'électrons, et de neutrons aussi. Hein, il y a trois particules.
Pour nos auditeurs, on peut retenir que proton, ça commence par un P, donc c'est positif. Et dans neutron, moi, quand j'ai fait mes études, je retenais comme ça, il y a un petit T sur la barre du T, et ça fait comme un petit trait négatif. Donc, l'électron, c'est négatif, et le proton comme positif. On peut retenir ça un petit peu dans la tête, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais comme ce plasma était trop chaud, ces particules ne pouvaient pas se marier.
Oui.
Elles restaient chacune célibataires. Et ce qui se produit à 380 000 ans, c'est qu'enfin, l'univers arrive à une température où les particules vont pouvoir se marier entre elles, les plus et les moins. Cette température est déjà beaucoup plus basse, puisque à 380 000 ans, on arrive à 4000 degrés.
Oui.
4000 degrés, c'est la température du Soleil. La surface du Soleil dépasse même 5000 degrés. Donc, nous arrivons à des températures qui sont, je dirais, usuelles. Bon, pas autour de nous, bien sûr, dans notre appartement, mais dans le soleil, oui.
Et vous nous aviez dit la dernière fois qu'on avait déjà quand même un tout petit peu de noyaux. On n'avait pas d'atomes, mais on avait des neutrons et des protons. Il me semble que la dernière fois ou la fois d'avant, vous aviez parlé de ces premiers noyaux de base. Ce n'est pas tout à fait des atomes. Si je vous comprends bien, vous allez me corriger après. Mais on avait l'atome d'hydrogène et l'atome d'hélium, peut-être un peu de lithium aussi, c'est-à-dire des choses très très basiques, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je prends un peu des raccourcis pour que les choses soient simples, mais c'est vrai, vous avez raison. D'abord, il y a eu l'élaboration des noyaux des atomes. Et puis, dans un deuxième temps, celui dont je parlais là, le mariage entre ces noyaux qui sont positifs et les électrons. Et cela donne une matière qui est neutre, comme toute la matière qui vous entoure. Hein. La matière que vous voyez autour de vous n'est pas chargée. Elle est parce qu'il y a un équilibre entre les électrons et les neutrons.
Oui.
Et les protons. Et donc la matière, à 380 000 ans, commence à former les atomes. Alors, Dominique, vous avez raison. Il n'y a que deux types d'atomes qui apparaissent à ce moment-là. Pas d'oxygène, pas de carbone, pas de métaux, tout ça n'existe pas. Il n'existe que deux éléments, l'hélium et l'hydrogène. Pourquoi ces deux-là? Parce que l'hydrogène, c'est le plus petit. Il a un seul proton dans son noyau. Et l'hélium, c'est le deuxième plus petit. Et il a deux protons dans son noyau. Donc ce sont les deux éléments les plus simples qui sont créés par le Big Bang. Je répète donc, à 380 000 ans, le Big Bang nous donne enfin un gaz d'hydrogène et d'hélium, mais rien d'autre. Alors, j'ai une expression pour ça, je dis finalement, le Big Bang a fait petit bras, vous voyez, parce qu'il n'a pas réussi à créer autre chose que ce gaz. Et ce gaz, en plus, est inerte, parce que vous savez bien que l'hélium n'a aucune activité chimique. Et c'est donc un gaz totalement inerte. Le Big Bang a joué petit bras et a sorti un gaz. Alors, comment vont se faire ensuite les éléments?
Et alors, on peut peut-être, je vous coupe, Michel, on peut peut-être dire que l'hélium, on en entend un peu parler, parce que de temps en temps, il y a des ballons qu'on gonfle à l'hélium. Et puis l'hydrogène, là, nos auditeurs connaissent, ils savent ce que c'est que l'hydrogène. C'est toujours le même hydrogène, hein, ça n'a pas changé, hein, depuis ce temps-là, depuis il y a 380 000 ans, ça n'a pas changé, c'est toujours le même, il est toujours là.
Oui, alors en fait, on utilise l'hélium, on utilisait dans les
On
ballons
utilisait.
dirigeables l'hélium,
Ouais.
et on l'utilise encore pour les ballons expérimentaux qu'on envoie dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que l'hélium est inerte
Léger.
chimiquement, donc il peut pas y avoir d'explosion. Vous vous souvenez de l'explosion du dirigeable Hindenburg? C'était horrible. Eh bien, l'hélium, lui, ne peut pas exploser comme ça parce qu'il est inerte chimiquement. Et voilà donc ce que nous donne le Big Bang, un gaz inerte fait d'hélium et d'hydrogène. Je dois dire qu'aujourd'hui encore, la quasi-totalité de l'univers est faite de ces deux éléments. Et les autres éléments, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que vous connaissez, c'est l'oxygène, le carbone, les métaux, etc., l'azote. Ces éléments-là n'apparaîtront que bien après dans les étoiles. C'est-à-dire que il faudra attendre 50 millions d'années, peut-être. On n'est pas absolument sûr du chiffre, mais enfin, disons entre 50 et 100 millions d'années pour qu'apparaissent les premières étoiles. Et là, au centre des étoiles, la cuisson va reprendre. Finalement, l'étoile offre une température élevée et permet un petit retour en arrière vers le Big Bang. Et ce Big Bang, qui lui avait été stérile, n'avait fait que de l'hélium et de l'azote, et pardon, et de l'hydrogène, eh bien, ce gaz maintenant, au sein des étoiles, va pouvoir mijoter et tranquillement fabriquer tous les éléments, l'oxygène, le carbone, etc. On dit souvent, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Et oui, tout ce que vous êtes vous-même et ce qu'est l'univers qui vous entoure immédiatement chez vous, autour de vous, tout cela, est né dans les étoiles. C'est de la poussière d'étoiles.
Michel, je vous arrête. Nous arrivons au bout de notre quart d'heure et je vous propose de nous retrouver ensemble la semaine prochaine. Et je dis à nos auditeurs surtout de ne pas rater les prochains épisodes. Michel, au revoir et merci.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Arrangerò adesso.